Chers amis, je voulais commencer cette émission. On voulait avoir une petite discussion entre nous parce que, vous le savez peut-être, j'ai sorti un livre qui est sorti ce mois-ci après un an de travail. Un livre que je publie aux éditions Payot qui s'appelle Les jeunes, c'est le présent. Un livre dans lequel je reviens sur la question de la politisation des jeunes, la question du rapport qu'entretient le personnel politique avec la jeunesse et la façon qu'ont les jeunes de concevoir leur existence dans le monde politique. Évidemment, tout ça, ce sont des thématiques qui ne sont pas étrangères à mes activités sur Twitch, qui ne sont pas étrangères à l'identité éditoriale de Backseat. Et l'intérêt de Backseat, c'est que je ne suis pas tout seul en plateau. Il n'y a pas que moi qui parle, il y a des gens formidables. Et je voulais vous proposer qu'on ait une discussion sur cette notion, la question de la politisation des jeunes. Comment est-ce que vous vous êtes politisé? Est-ce que vous avez le souvenir de... Il y a eu une bascule, il y a eu un phénomène, ça a été un truc plutôt lent. Comment... Malek, tu te souviens toi ou pas?
La bascule, c'est Nicolas Sarkozy.
Son élection?
Non. Juste avant 2005, en bas de chez moi.
T'étais dans les jeunes avec Sarko?
Non.
Oula!
Les non. Jeunes pop?
Non. Non, en bas de chez moi, Argenteuil, il dit cette fameuse phrase, vous en avez assez de cette bande de racailles, eh ben, on va vous en débarrasser.
Absolument. Une
J'avais 9 ans, ouais. C'était en bas de chez moi, et je me suis dit, eh ben, la racaille, elle va venir dans ton game, mon pote.
Effectivement, c'était une sortie médiatique de Nicolas Sarkozy qui avait quasiment lancé ses ambitions
présidentielles.
Enfin, pas ses ambitions, il les avait déjà, mais son positionnement politique, l'insécurité, la banlieue, les jeunes de banlieue. Ok, donc ça a été le point de départ.
C'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, bon, la politique, c'est un vrai bail. 2007, je fais le gros meeting de Ségolène Royal à Charletti.
Charletti, ouais.
C'est un grand stade hein, pour les jeunes.
Je viens un truc de zinzin. C'est parce que quand on est gamin et qu'on voit un truc immense comme ça qui se passe.
Ah, mais c'était ouf.
Ok, donc là, je
tu étais aussi, Jean?
Je suis le débat.
Non, moi, j'étais devant ma télé.
Ah. Et ensuite, je rentre dans mon engagement par l'engagement municipal, avec la municipale 2008, avec celui qui est devenu mon patron après, qui est devenu maire d'Argenteuil en 2008.
Ok, d'accord. Lorraine, est-ce que tu te souviens, est-ce que tu peux parler d'un phénomène de politisation est-ce qu'il a commencé à un moment particulier? Tu te souviens, toi, ou pas?
Ouais, moi, je me souviens exactement quand c'était. En fait, c'était en juillet 2014, donc j'avais 16 ans. Donc moi, je me suis toujours intéressée aux luttes féministes, de par ma condition de femme noire en France, évidemment. Et en fait, en juillet 2014, j'ai un gros accident. Où je me retrouve paralysée, bref, je suis à l'hôpital, je suis dans le 16e arrondissement de Paris, donc je passe de Clichy-sous-Bois au 16e, et je suis scolarisée là-bas pendant 6 mois, je rencontre d'autres jeunes d'un autre milieu social, et là, ils me parlent de ministre, de secrétaire d'État, moi je connaissais président, premier ministre, ça s'arrêtait là, et là je me dis, mais il y a un petit souci là, pourquoi je me suis jamais intéressée à ça? Plus le handicap de mon accident et que je pouvais aller de nulle part dans Paris, ça m'a un peu énervée. Et là, je me suis dit, faut faire quelque chose. Et c'est là que j'ai commencé à écrire des petits brouillons de Cité des Chances.
D'accord, ok. Usul, tu te souviens de toi, de ton processus de radicalisation?
Oui. Bah oui, c'est simple. Mon père, il était ouvrier, il était à l'usine, ils ont fermé l'usine. Et puis, les seuls qui étaient auprès des ouvriers à ce moment-là, c'était la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire, parce que à l'époque, le Parti communiste et le Parti socialiste étaient au gouvernement, c'était les années Jospin, donc ils n'étaient pas dans les luttes sociales, du coup. Et donc, du coup, il y a commencé à y avoir des militants qui, de temps en temps, venaient chez moi pour une réunion, parce que les réunions se faisaient chez l'un, chez l'autre et tout, et ils m'ont dit, ça t'intéresse, toi, la politique? Je fais, oui, évidemment, parce que je savais que j'étais de gauche dès le début.
Ouais. Mais là, t'as jamais douté?
Non. Et ils me disent, et Marx, ça t'intéresse? Ah, je sais pas, j'ai pas lu. Faites-moi lire, alors. Donc, 14, 15 ans, ils me filent le salaire prix profit, je commence à lire Marx, et après, c'est parti, quoi. J'ai milité dès le lycée, ouais.
Ok, d'accord. Moi, je crois que c'était le CPE, le mouvement contre le contrat première embauche en 2006. Comment il s'appelait
Dominique de Villepin.
Premier ministre qui utilise un 49-3 très agressif d'entrée de jeu.
Votre pote, là, Dominique de Villepin.
Il y a beaucoup de gens qui sont politisés contre lui, contre de Villepin, qui était très, 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 très conspué par la rue, puisqu'il y a eu un énorme mouvement étudiant et lycéen contre son contrat première embauche. Et moi, je faisais partie de ces lycéens, donc j'ai organisé des AG dans mon lycée pour bloquer le lycée. J'ai pris un conseil de discipline et tout, et ça a été...
à toi aussi.
Ouais, carrément. Ça a été un processus de politisation, mais après, ça s'est vite arrêté, parce que j'ai été très déçu très, très vite par l'engagement partisan. En réalité, moi, mon engagement, c'était l'engagement associatif, parce que j'étais dans le journal du lycée et que c'est plutôt ça qui m'a branché. Et donc, j'ai eu une politisation beaucoup plus soft par le travail militant associatif, quoi. Donc non, mais c'est intéressant. Vous voyez, on a tous des processus de politisation qui démarrent à des âges très différents, pour des raisons très différentes. Ça peut aussi se faire.
C'est souvent des événements, t'as vu. C'est des. Oui. Il y a des trucs qui se passent. Et
est-ce que l'année qu'on vit actuellement contient des événements susceptibles de politiser des jeunes ? Par exemple, je pense pas qu'une dissolution soit de nature à politiser qui que ce soit.
Non.
Je pense pas.
Par contre, peut-être le moment, comme la campagne qu'on a eue aux législatives, c'est-à-dire le moment où l'extrême droite est vraiment à ça d'arriver au pouvoir, on l'a vu. Moi, j'étais à Lyon, j'étais aux réunions de départ, là, du NFP, de ce qui se lançait. Ils me disaient, on n'a jamais vu autant de gens arriver. Ouais. Qui n'avaient jamais milité. J'ai un copain à moi aussi, je le salue, Fabien, s'il nous regarde, qui est allé tracter et faire du porte-à-porte. Il n'avait jamais fait ça de sa vie. Mais voilà, dans l'action.
Non, t'as raison.
Il y avait ce truc de l'urgence et il y avait aussi en tête que la campagne était très courte et on le savait. Donc il y a eu ce truc de réimplication où c'est vrai que partout, dans toute la France, le constat est le même, c'est qu'on a vu des gens qui n'ont jamais milité avant. Et c'est fou. Après, c'est le truc, c'est que.
Mais tu parlais de Ségolène Royal, Charletti. Ségolène Royal en 2006-2007, elle a été une puissante politisatrice, je sais pas si ça se dit, parce que beaucoup de gens sont venus à la politique par Ségolène Royal.
Et puis
c'était spectaculaire.
Et puis Fête de la Fraternité.
Et Fête de la Fraternité, bien sûr. Non, ça marchait très très bien. Le phénomène Ségolène Royal, démocratie participative contre les vieux caciques du parti et tout. Il y a eu des phénomènes. Donc parfois, c'est vrai que des personnalités peuvent être des cristallisateurs. Jean-Luc Mélenchon est un cristallisateur intéressant. C'est un leader charismatique, Jean-Luc Mélenchon. Donc il va emmener derrière lui beaucoup de gens qui vont se politiser en écoutant ses discours. Mais sur la politisation, il y a un truc que je trouve intéressant. C'est d'abord de constater que la politique, c'est pas très attrayant. Et au demeurant, est-ce que ça a vocation à le devenir ? C'est pas forcément sûr. La politique, c'est souvent effectivement, de prime abord, quelque chose de très chiant, très réborratif, avec des personnes en costume cravate, très sérieuses, qui disent dans des micros des choses difficiles à comprendre, parce que c'est vrai qu'ils utilisent des mots genre dissolution, constitution, commission à l'Assemblée. Ça ne parle pas aux gens et c'est normal. Et donc je comprends qu'il y a un coût à l'entrée de la politique qui n'est pas facile à payer pour les adultes comme pour les jeunes, mais en particulier pour les jeunes parce que vraiment quand t'es jeune tu ne te sens pas représenté par les politiques. Enfin,
si par Poutou quand il dit évidemment encore un gouvernement de tocards.
Ouais.
Là je me sens représenté moi.
Oui tu peux te sentir représenté par. Oui mais ça tu vois ça c'est une phrase à la télé. Est-ce que c'est la politique? Je suis pas sûr tu vois. Et par ailleurs ce que je constate aussi chez beaucoup de jeunes, il y a aussi un rejet, une espèce de distance sanitaire qui est gardée avec la politique pour des bonnes raisons, pour des raisons d'éthique en fait. La politique, elle est malheureusement aussi marquée par des comportements délictueux, intolérables, immoraux. On pense à Patrick Balkany. On pense à Nicolas Sarkozy. On pense à l'affaire des estampes parlementaires du Rassemblement National. On pense à des affaires. Et la politique, c'est aussi des affaires. Et du coup, je trouve que beaucoup de jeunes se tiennent à distance de la politique parce qu'ils ne veulent pas participer à ce monde-là. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est une exigence d'éthique. C'est d'abord une exigence d'éthique. Après, c'est un refus de rentrer dans l'arène, mais ça commence par une exigence d'éthique. Et moi, je trouve ça bien et je trouve ça sain que les citoyens aient d'abord une exigence d'éthique.
Et en même temps, j'imagine que t'en parles là-dedans. J'ai pas eu le temps de le lire encore. Tu me l'as pas filé non plus.
Mais je vais te le filer.
Oui.
On s'est pas vu depuis.
Ben oui, c'est ça. Et j'imagine que t'en parles. Il y a une différence entre politisation et embrigadement dans un parti. Tu peux être politisé sans être affilié. Donc affiliation et politisation, c'est deux choses différentes. Tu peux être politisé et militer, bah tu vois, pour Cité des Chances pour une inclusion différente dans la politique ou avec n'importe quel assaut sur n'importe quelle cause précise. Et alors ça, c'est un truc que tous les politistes ont vu à partir particulièrement des années 90, l'effondrement de l'engagement dans les grands partis, là où bon évidemment
les partis de masse,
les partis de masse, voilà, qui avaient des milliers d'adhérents jadis et qui ont commencé à décliner et à décliner vraiment sévèrement à partir des années 80 et particulièrement dans les années 90. Et dans les années 90, on a vraiment mesuré que, par contre, ce qui allait commencer à faire rentrer des gens, c'était des mouvements un peu sectoriels. Le mouvement des chômeurs, le mouvement des... à l'époque, il y avait déjà la question des ce qu'on appelait à l'époque les sans-papiers. Oui. Aujourd'hui, on appelle ça les migrants. Hein. Vous avez vu, on a changé de vocabulaire. À
les écolos.
À l'époque, on appelait ça les sans-papiers. Maintenant, il y a le mouvement des écolos. Et voilà, des gens qui rentrent par des causes. Aujourd'hui, voilà, tu peux rentrer, si t'es écolo, tu peux aller dans les soulèvements de la terre. Et je pense que pour un jeune qui a envie de s'engager maintenant, aller dans les soulèvements de la terre, c'est plus marrant, c'est plus intéressant, c'est plus sexy aussi que d'aller à Europe Écologie Les Verts, te taper les bisbilles internes entre Yannick Jadot, Marine Tondelier, machin. Parce que c'est ça aussi la vie des partis. Et ça aussi, c'est assez rébarbatif. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer dans un parti, ça, il faut le dire, c'est des gens qui s'embrouillent entre eux, hein, quand même.
Premier truc qu'on m'a demandé quand je suis rentré au PS, j'avais 17 ans, c'est...
Ta motion ?
T'es de quelle motion ?
Bah oui.
Mais c'était agressif comme question. T'es avec qui, lunaire. Toi? Tu roules pour qui? Et j'étais en mode, ah bon, il y a d'émotions?
Non, mais c'est pas mal.
Donc,
et même à l'intérieur du PS, c'était un jeu d'essayer d'avoir les jeunes, d'avoir le MJS, d'avoir l'UNEF, oui. D'avoir le... Mmh. Amon avait été très fort à ça, fut un temps.
Toi, Lorraine, tu parles d'une culture politique qui est dépassée. C'est aussi ça, il y a une inadéquation entre les jeunes et le monde politique.
Totalement. Bah, nous, avec Cité des Chances, on voit, quand on rencontre les jeunes, ils nous disent, bah, il y a des causes qui m'intéressent, j'ai envie de faire, j'ai envie d'aller sur le terrain. Mais il y en a qui, en fait, sont même pas dans des associations et qui s'auto-gèrent, en fait. On l'a vu pendant le Covid, par exemple, il y en a qui s'organisaient pour faire des distributions de repas, etc. Et en fait, quand on leur dit, ouais, rejoins une association, rejoins un parti, ils sont là. Ah ouais, non, flemme, en fait. Et même moi, j'ai fait l'expérience au tout début de ma politisation, où on était là, bon, bah, ah, mais c'est cool ce que vous faites avec CD Chances, bon, bah, viens à telle réunion, machin, etc. Mmh. T'es dans des réunions, déjà, tu fais une heure de transport, c'est chiant, c'est long, ça commence tard, t'as faim, tu comprends rien, ça parle de trucs des prochaines élections, etc. Et t'es là en mode, moi j'étais bien avec mes élèves et en train de distribuer mes repas, en fait. Et ça, c'est un truc qu'on voit souvent quand on rencontre les élèves, ils nous disent, bah non, en fait, enfin, moi la politique, enfin, agir pour les autres, ça me tient à cœur et ça, j'ai envie de le faire. Mais par contre, vos trucs d'élections, de machin, etc., laissez-moi tranquille avec ça.
C'est une question aussi de culture militante. Moi, je venais de l'associatif. Et l'associatif, par définition, il y a au cœur de l'associatif, très souvent, tu as la méthodologie de projet. On fait des trucs, on fait un festival, on fait des formations, on fait des machins. Donc, on a des process, des réunions où on prend des décisions pour avancer plus efficacement et tout. Et première réunion du parti, je me souviens, pareil, comme toi, tard le soir, il faisait nuit, c'était chiant et tout. Et on se réunit pendant 2 heures dans une salle pour se dire des trucs de gauche. Et à la fin, tout le monde se lève pour aller boire un coup. Ouais. Et moi, comme un con, je me demande, mais du coup, on fait quoi? Et tout le monde me regarde en disant, mais comment ça, on fait quoi? C'est bon, la réunion est terminée, on va boire un coup, là.
C'est ça.
Ah, d'accord, c'est ça le parti. Ok.
J'ai toujours dit que les réunions de section et les conseils fédéraux au PS, c'était des occasions de se voir pour boire des coups.
Mais
c'est
oui, bien sûr.
Mais vraiment.
C'est un prétexte. Tu vois. Non, mais en même temps, fait chier qu'autre chose.
Alors, ceci étant, tu soulèves un point intéressant, et j'en parle un petit peu dans le livre. Je rappelle quand même que la politisation, lorsqu'il s'agit d'adhérer à un parti, un syndicat, une association, c'est aussi un phénomène de socialisation très important. Mmh. Vous allez vous faire des potes. Voilà, vous allez vous faire des potes parfois pour la vie.
Et des ennemis. Et ouais.
Beaucoup d'ennemis parfois.
Et des adversaires, oui. Vous allez vous faire des adversaires. Mais c'est vrai, voilà, il y a aussi quelque chose de joyeux dans le militantisme et dans l'engagement. Ça dépend des partis.
Alors, ce que je vais te dire est un peu moins joyeux parce que on a perdu un camarade qui est décédé cet été et des militants, des camarades qui ne s'étaient pas vus depuis des années se sont retrouvés, tu vois, à ce moment-là.
Pour les obsèques.
C'est pour les obsèques. C'est la preuve aussi que, tu vois, il y a des liens qui se créent des fois pour quelques mois, pour quelques années, et puis des fois vraiment pour la vie, tu vois.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, dans les processus de politisation des jeunes et de rapport entre les jeunes et la politique, il y a aussi la manière qu'ont les politiques de parler des jeunes et de penser les jeunes.
Ouais.
Ben, voilà, justement. Ouais. Et effectivement, quand on voit que le gouvernement, qu'Emmanuel Macron, depuis 7 ans, n'a réussi à donner naissance finalement qu'au SNU et à l'uniforme à l'école...
Le pass culture, je sais pas.
Le pass culture, tu as raison.
J'essaie de trouver un truc.
Le pass culture, tu as raison, ça c'est juste. Plus d'accessibilité de la culture, etc. Mais le service national universel trahit une pensée de la jeunesse, une manière de l'envisager, de la voir dans le monde, ou au contraire de ne pas vouloir la voir. Et ça peut être quelque chose de terrifiant. Et je peux comprendre que des jeunes n'aient pas envie de toucher du bout du doigt la politique quand la politique, c'est le SNU, quoi.
Et en même temps, voilà, qui a des discours vers la jeunesse et tout, si ce n'est la gauche, mais qui éternellement, enfin, a toujours eu cette fonction-là. Là, Mélenchon l'a même théorisé en parlant d'une... Une nouvelle France, il dit qu'il y a une nouvelle France à laquelle il s'agirait de parler, qui comprend la jeunesse, hein. C'est un peu les banlieues, c'est un peu la jeunesse, c'est un petit peu le monde du travail aussi, mais surtout les banlieues et la jeunesse, et là on voit des jeunes en randonnion, voilà, ça c'est la jeunesse telle que la rêve la droite.
Alors ça, ce que vous voyez d'ailleurs, c'est un exercice un symbolique.
Waouh, c'est très joli ce qui est en train de se passer, pardon.
Ça s'appelle le passage en revue, alors c'est pas tout à fait les bonnes images, parce qu'il y en a d'autres qui montrent des passages en revue. Le passage en revue, c'est une pratique symbolique qui a lieu dans le monde de l'armée et dans le monde de la police, et qui consiste pour des troupes à se mettre en randonnion, pas au garde-à-vous, mais très raide, et à voir défiler devant elles et eux des autorités militaires, politiques, hiérarchiques. Et c'est un exercice d'obéissance à l'autorité. C'est un exercice de respect, de reconnaissance de la hiérarchie. Et c'est pour ça que c'est tout à fait naturel qu'un président de la République, par exemple, passe en revue les troupes. C'est naturel qu'un ministre de l'Intérieur passe en revue des policiers. C'est naturel qu'un préfet passe en revue des gendarmes. Ce n'est absolument pas naturel qu'un préfet passe en revue des jeunes. Et moi, j'ai vu des passages en revue de SNU, de jeunes au SNU, par des préfets. Ces images me font vomir. Elles devraient faire vomir tous les préfets de France. Quand ils voient ça, je comprends même pas que les préfets, qui en général sont un peu formés sur ce genre de truc, aient accepté de se prêter à cet exercice de passage en revue de jeunes, comme si les jeunes devaient obéissance et reconnaissance de l'autorité supérieure du préfet. Mais on est, en Corée du Nord éventuellement, je veux bien, en Iran aussi, mais dans une démocratie, je trouve ça lunaire. Je trouve ça totalement lunaire que ce truc-là existe.
Oui, moi, j'étais totalement choquée. Déjà que moi, enfin, j'ai pas connu l'ESNU, j'ai eu la journée, comment on appelait ça,
La JAPD,
exactement.
Journée d'appel de préparation à la défense.
Ouais, et déjà, j'étais là en mode, ok, bon, c'est très militaire et tout. Dès que t'arrives, on te dit, voilà, il y a un cadre et tout. Déjà, ça m'avait un peu saoulée. Mais en fait, moi, je trouve que c'est aussi très représentatif de comment on voit la jeunesse, mais y compris dans les partis politiques, en fait. Parce que souvent, dans les partis politiques, il y a les mouvements de jeunes, donc les jeunes socialistes, les jeunes écolos, les jeunes avec Sarko, les jeunes avec Macron et compagnie. Et en fait, souvent, on les voit justement comme des soldats couleurs d'affiches, des soldats qui vont être là pour publier des trucs sur les réseaux sociaux, etc. Mais par contre, on leur donne ni la parole ni le pouvoir, et ça on le voit déjà avec l'Assemblée nationale. Enfin, la moyenne d'âge, bon, c'est pas le Sénat non plus, mais la moyenne d'âge est quand même, enfin voilà, c'est pas jeune clairement. Et en fait, enfin, moi, c'est un truc qui me choque en tant que jeune, parce que c'est quelque chose que j'ai aussi vécu, ce mépris-là de, par exemple, genre quand t'es énervé dans une réunion en mode non mais, enfin, moi je trouve ça inadmissible, je trouve que c'est pas éthique, etc. On dit non mais c'est parce que t'es énervé parce que t'es jeune, mais tu vas voir que après il y a des règles, etc. Et de la même manière, quand tu rentres dans un parti, on te dit non mais en fait d'abord il faut devenir conseiller municipal, ensuite tu fais ci, ensuite tu fais ça, et après peut-être tu seras député, etc., etc. Et en fait, si tu te plies pas à ces règles-là, bah en fait t'es mal vu, tu te fais justement des ennemis. Et moi, enfin, je le vois dans le monde politique, il y a des gens qui se détestent. J'étais même pas encore née, je me dis ah ouais. Et en fait, quand t'écoutes les histoires, tu te dis mais enfin c'est un truc ridicule d'il y a 30 ans, enfin passer au-dessus quoi.
Mais je comprends, c'est ce que tu dis sur l'inadéquation et sur cette culture politique qui est complètement dépassée. Malek ?
Moi, il y a un truc qui m'a un petit peu choqué cet été. Alors déjà, il y a quelques années, je voulais parler des défilés militaires, du fameux défilé militaire du 14 juillet. Il y a quelques années, quand je voyais des jeunes du service civique déjà défiler dans un défilé militaire, c'est un truc qui m'avait choqué. Là, de voir cette mise en scène, il y a eu toute une séquence autour des jeunes du SNU qui marchaient comme ça, au pas, ils ont fait les répétitions et tout. Franchement, je me suis dit, on en est là ? Et personne ne se soulève d'ailleurs, parce que, non. Excuse-moi de te le dire, mais on n'en parle que, en réalité, on n'en parle que dans Backseat. Ça ne choque que Backseat, le SNU. Alors qu'en vrai, ça devrait élever tout le monde. Ça devrait même être un sujet, là, dans les prochains mois, parce qu'on, peut-être qu'une dissolution va se profiler à un moment, on en parlera plus tard dans l'émission. Peut-être que ça fait partie aussi des sujets de débat. C'est quoi la jeunesse qu'on souhaite dans ce pays ?
Alors, tu le dis effectivement très bien. Il y a aussi un problème structurel qu'a la jeunesse, c'est qu'elle est minoritaire.
C'est clairement une des politiques et des moods, le truc SNU, discipline, etc., qui sont là pas pour plaire aux jeunes. C'est des politiques contre les jeunes, c'est des politiques sur les jeunes, dont les jeunes sont l'objet, mais dont les jeunes ne sont pas le sujet. Ils ne le réclament pas, ce truc-là. D'ailleurs, pour l'instant, c'est sur la base du volontariat, ils galèrent un petit peu. On voit quand on regarde qui a candidaté pour aller au SNU, t'as des enfants de militaires en fait.
T'as beaucoup,
moins la deuxième année, mais c'était quand même beaucoup le vivier de la première année. Et bon, c'est des politiques pour plaire aux vieux en fait. C'est les vieux qui aiment voir les jeunes en randonnion et qui aiment voir les jeunes au garde
à vous. C'est Barnier, l'uniforme à l'école.
C'est Barnier, c'est Brigitte Macron, c'est Jean-Michel Blanquer que ça excite de voir des jeunes dresser, faire le lever de drapeau, comment on dit là, le. Chanter la Marseillaise et machin. Voilà.
Oui, la levée du drapeau, levée des couleurs.
Ouais, levée des couleurs.
Mais oui, tu as raison. Et c'est un des trucs que j'explique du coup dans ce livre, c'est que les jeunes ont un problème aussi, c'est qu'ils sont structurellement minoritaires.
Et oui, parce qu'ils votent pas.
Si vous voulez, ils votent pas, mais quand même ils voteraient, en fait, ça suffirait pas.
Ah merde.
Il y a vraiment beaucoup trop de vieux dans ce pays. Les vieux qui restent vieux de plus en plus longtemps et qui effectivement ont un comportement électoral bien plus important que les jeunes. Donc on a un vrai problème qui est que aucun politique n'a intérêt à chercher à plaire aux jeunes. Très très peu. Donc effectivement, dire des trucs sur des plateaux télé qui vont exciter les vieux, ça marche. Électoralement, ça paye, ça marche.
Puis même médiatiquement, c'est aussi les vieux qui regardent la télé, quoi.
Oui, en plus, par exemple, t'as tout à fait raison. C'est mouvoir par contre de voir des jeunes en randonnion, etc. bah ça vous fera pas gagner beaucoup de voix ni beaucoup d'élections. Donc il y a un enjeu structurel que je trouve intéressant et c'est pour ça que voilà, dans ce bouquin, j'essaie de m'adresser aussi aux vieux.
Et en même disant temps, tu dis aussi que la jeunesse, elle se politise sous les radars, en fait. C'est-à-dire qu'après, on est surpris. C'est ça qui est assez marrant, d'ailleurs, dans les résultats législatifs aussi. C'est « Oh merde, ça s'est bougé, ils ont voté. Ah non, le pays n'est pas d'extrême droite. C'est vrai, il y a eu barrage républicain. »
Ah bon, les jeunes s'intéressent à la politique. Bah oui, en fait. Ils s'intéressent, ils n'aiment pas les politiques, mais d'ailleurs, au demeurant, les Français non plus n'aiment pas beaucoup les politiques. Oui, les jeunes s'intéressent à des sujets qui les touchent. Gaza, ça les touche. Le changement climatique, ça les touche. L'éthique en politique, ça les touche. Et ça, c'est des sujets sur lesquels ils ont des opinions, voire même parfois des colères qui peuvent parfois s'exprimer par le vote, pas toujours, mais ça peut arriver. Donc voilà.
Les jeunes aussi ont aussi, ça c'est un truc qu'on rappelle souvent, ont parfois aussi vocation à aiguiller le vote de leurs parents ou de leurs grands-parents en leur disant « Pour toi ça va, t'es peut-être propriétaire et tout, mais regarde comment nous on galère. » Et mine de rien, il y a des parents qui vont réorienter leur vote en fonction des galères qu'ils voient bien que les jeunes, leurs jeunes à eux, sont en train d'affronter, quoi.
Ouais.
Donc c'est même si vous votez, c'est bien, mais essayez de faire voter vos parents. Ça, je le répète à chaque fois, à chaque élection.
Tu as parfaitement raison.
T'as raison parce qu'on en parlait. J'ai un souvenir. J'avais une discussion avec quelqu'un du public à l'entre-deux-tours des législatives avec un de ses parents qui avait voté. Je crois que c'est son père de mon souvenir qui avait voté RN au premier tour. Et qui au second tour n'a pas voté RN parce qu'il y a une discussion en fait avec son gamin qui lui a dit bah en fait c'est moi que tu vas mettre dans la merde et tous les copains qui sont avec moi. Donc non, je suis d'accord.
Bon, quoi qu'il en soit, Baxit n'a pas vocation à avoir un discours prescriptif vis-à-vis de vous. Faites ce que vous voulez, les amis. Intéressez-vous à la politique. Nous, on fait de notre mieux pour vous y intéresser. Et puis politisez-vous si ça vous chante, de la manière qui vous convient le mieux, et longue vie à vous dans ces méandres de la politique. On vous accompagnera aussi longtemps que possible.